Il était une fois.
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 On raconte qu'au tout début des temps, Nout, la déesse du ciel, et Sibou, le dieu de la terre, s'aimaient. Les deux divinités s'accrochaient l'un à l'autre dans une étreinte ô combien érotique. Mais leur étreinte ne laissait aucun espace entre leurs corps, étouffant ainsi toute forme de vie sur terre et dans le ciel. Lorsque Ré, le dieu solaire, créateur de l'univers et père des deux amants, l'apprit, il sombra dans une profonde colère. Pour les punir, il interdit à Nout d'accoucher durant aucun des jours de l'année qu'il avait lui-même conçu. Le stratagème était fin. Ré étant le créateur de toutes choses, Nout serait éternellement enceinte. Les deux amants furent déboussolés. Le ventre de la déesse grossissait et les mois passaient sans possibilité pour elle de donner naissance à ses enfants. Thoth, dieu de l'écriture et du langage au savoir illimité, fut peiné de leur situation. Il alla donc trouver la lune et lui proposa une partie de dés. La lune, friande de jeu, accepta, mais perdit. Alors Thoth lui demanda en gage de sa victoire 1/72 de ses jours de lumière. La lune lui donna 5 jours, qu'il s'empressa de placer à la suite des 360 jours créés par Ré au commencement des temps. Nout put alors mettre au monde ses enfants. Le premier jour, ce fut Osiris qui naquit à Thèbes. Il avait un beau visage, un teint mat et foncé, et il était très grand. Sa taille dépassait 5 mètres. Au moment de sa naissance, on entendit une voix mystérieuse annoncer que le maître de toutes les choses était apparu à la lumière. Des cris de joie s'entendirent sur toute la terre, mais on entendit rapidement également des pleurs et des lamentations, car la voix prophétisait encore que de grands malheurs attendaient le nouveau-né. Le deuxième jour, ce fut Horus l'Ancien qui naquit. Le troisième jour, ce fut au tour de Seth, qui déchira le ventre de sa mère. Le quatrième jour, ce fut la puissante Isis qui vit la lumière. Et le dernier jour, sa sœur Nefti. Les enfants grandirent, entourés de l'amour de leurs parents. On raconte que même l'irritable Ré fut attendri lorsqu'il vit la charmante progéniture de Nout. Pour que vous compreniez bien le caractère de la malicieuse Isis, il faut que je vous raconte une anecdote de son enfance. À cette époque, le puissant dieu solaire ne bénéficiait pas encore de ses séjours nocturnes et souterrains, gage de ses perpétuelles renaissances matinales. Son corps s'affaiblissait et Ré devenait de plus en plus sénile. Un jour, la bouche du vieillard s'affaissa et laissa sa salive couler au sol. Alors discrètement, la jeune Isis récupéra le filet de salive et avec un peu de terre en fit un serpent venimeux. Elle plaça le reptile près du palais royal et lors d'une promenade, le dieu solaire fut sévèrement mordu par le serpent. Empoisonné, faible et fiévreux, Ré ne sut que faire. Alors, Isis se présenta devant sa victime avec un air innocent et inquiet. « Qu'y a-t-il, mon père divin ? » dit-elle. « Un serpent a-t-il apporté la faiblesse en toi ? Un de tes enfants a-t-il levé la tête contre toi ? Si c'est le cas, alors je le détruirai au moyen de ma sorcellerie efficace. Je ferai en sorte qu'il soit repoussé de la vue de tes chauds rayons. » Le pauvre Ré expliqua ses souffrances à sa petite fille, qui aussitôt lui répliqua en disant « Dis-moi ton nom, mon père. » Un homme vit lorsque l'on récite son nom. Le malade s'empressa de dire ses noms et principaux titres de gloire, mais ne se trouva pas rétabli. Alors Isis dit à Ré « Ainsi, ton nom n'était pas parmi ceux que tu m'as mentionnés. Tu devrais me le transmettre, que le venin puisse s'en aller. Un homme vit lorsque son nom est prononcé. » Le poison fut de plus en plus douloureux. Il devint plus puissant que la flamme et le feu. Alors Ray dit : « Approche tes oreilles, ma fille, que mon nom passe de mon ventre à ton ventre. » C'est ainsi que par la possession du vrai nom de Ray, Isis acquit les pouvoirs créateurs du dieu solaire. Ses pouvoirs magiques devinrent colossaux et rien ni personne ne pouvait plus rivaliser avec elle. Les années passèrent et bientôt on célébra le mariage d'Isis et de son frère Osiris. On raconte que les deux amoureux s'aimaient déjà dans le ventre de leur mère. Le mariage fut incroyablement beau. En ces temps-là, les humains étaient encore à demi sauvages. Ils se dévoraient les uns les autres et survivaient en mangeant les fruits de la terre quand ils les trouvaient, mais ne savaient pas les faire pousser par eux-mêmes. À peine étaient-ils capables de se défendre contre les bêtes fauves. Osiris vint parmi eux et leur apprit à reconnaître les plantes qui pouvaient les nourrir. Le lin, l'orge et la vigne, qui jusque-là croissaient pêle-mêle avec les mauvaises herbes. Isis, elle, leur apprit à reconnaître les plantes qui pouvaient soulager leurs maux et comment les préparer. Le jeune dieu continua son apprentissage et enseigna aux hommes l'art de fabriquer une charrue pour labourer et une houe pour travailler la terre. Il leur montra comment semer et récolter les céréales, comment tailler la vigne. Devant les hommes émerveillés, Osiris pressa les grappes et but la première coupe de vin. Les hommes ne savaient pas non plus que la terre renfermait des richesses. Alors, il leur apprit à reconnaître les métaux et il leur fit travailler l'or et forger l'argent et l'étain. Ils surent désormais fabriquer des armes pour tuer des bêtes féroces, des outils pour travailler et même plus tard, des statues qui représenteraient des dieux. D'ailleurs, Osiris leur apprit à les respecter, à leur rendre un culte désignant les offrandes que chacun devait recevoir. Il régla l'ordre des cérémonies, les paroles qu'il fallait prononcer, le ton et la cadence des chants. Il fit même construire les plus beaux temples et créa par là même la religion. Avec l'aide des autres dieux, Osiris leur apprit aussi les sciences, les mathématiques, l'astronomie, la médecine. Et la sage Isis leur révéla les signes qu'elle avait inventés pour noter les paroles, pour garder, mieux qu'avec la mémoire, les phrases et les formules auxquelles tout obéit dans l'univers. Ce fut l'invention de l'écriture. À leur côté, vivait leur frère Seth. C'était un violent, de caractère jaloux, sombre et méchant. Un jour qu'Osiris était absent, il tenta de devenir le roi et le maître de toute l'Égypte en s'emparant du trône. L'astucieuse Isis l'en empêcha et réussit à le refouler aux portes du désert. Au retour d'Osiris, il y eut à Memphis de grandes réjouissances pour fêter le roi voyageur, juste et pacifique. Seth saisit cette occasion pour s'emparer du trône. En bon frère, il invita Osiris à un grand repas qu'il offrit en son honneur, assisté de 72 officiers qui lui étaient dévoués. Il avait pris furtivement la mesure de la taille d'Osiris et avait fait faire un immense coffre en bois précieux, curieusement travaillé, de la même grandeur. Il donna l'ordre d'apporter cette caisse au moment du banquet dans la salle où étaient les convives. Tous se récrièrent avec admiration sur la beauté de l'objet. Seth jura de l'offrir à celui qui l'emplirait parfaitement en s'y allongeant. Aucun de ceux qui tentèrent l'exploit n'y parvinrent. Puis, vint le tour d'Osiris. À son tour, il s'y coucha. Aussitôt, les 72 conjurés sautèrent sur lui, chassèrent les autres convives pour rabattre le couvercle sur le pauvre Osiris. Ils le clouèrent solidement et firent couler du plomb fondu sur les bords, afin de le rendre inviolable et volant. D'un seul élan, ils le soulevèrent et l'envoyèrent dans le Nil, où le courant le reçut et l'emporta jusqu'à la mer. Osiris se noya et Seth profita du meurtre pour asseoir sa domination sur toute l'Égypte. À la nouvelle de ce crime horrible, partout la terreur s'empara des hommes et des dieux. Bien vite, les dieux amis d'Osiris se cachèrent dans des corps d'animaux pour échapper à la cruauté de Seth. Isis sombra dans une profonde tristesse. Elle n'acceptait pas la disparition de son époux. Alors, elle prit des habits de deuil et partit à la recherche du corps d'Osiris. Long et éprouvant fut son voyage. Dans une frêle barque en papyrus, la veuve éplorée remonta le Nil plusieurs fois dans les deux sens. Puis elle longea les côtes de la Méditerranée jusqu'à toucher les terres de la Phénicie, le Liban actuel. Là, alors qu'elle versait des larmes face à la mer, un groupe d'enfants s'approcha. Il n'avait jamais vu femme aussi noble face à la douleur. L'un d'eux s'assit près d'elle et les autres l'invitèrent en silence. Ils l'entourèrent de leur innocence. Isis apprit d'eux qu'une étrange caisse de bois, richement ouvragée, s'était échouée non loin d'ici. Elle s'était encastrée dans un tamari géant, un très bel arbre de la région. Isis se fit guider jusqu'à lui et reconnut le cercueil de son mari. Le roi du pays, reconnaissant en elle la divine Isis, reine d'Égypte et petite-fille de Ré, lui remit à sa demande le tamari et son funèbre chargement. Alors, elle retourna sereinement dans son pays et cacha la dépouille d'Osiris dans le delta du Nil. Au cours d'une chasse nocturne dans les marécages, Seth tomba par hasard sur le corps haï de son frère. Il entra dans une rage folle. Comment pouvait-il être là? Dans sa colère, il dépeça en 14 morceaux le roi assassiné et les éparpilla aux quatre vents. Isis remonta alors sur sa barque de papyrus à la recherche du corps de son bien-aimé. Longue fut sa quête. Aidée de sa sœur Nefti, d'Anubis à la tête de chien et du sage Thoth, elle retrouva un à un les organes et les membres de son divin mari. L'histoire raconte qu'elle eut beau chercher, jamais elle ne trouva son membre viril. On dit qu'un poisson du Nil en avait fait son dîner. Ensemble, les quatre dieux, héritiers de la science d'Osiris, confidents de ses pensées, trouvèrent dans les enseignements mêmes du dieu le secret de le ramener à une vie nouvelle. Mieux encore, Isis inventa le remède qui donne l'immortalité. Elle disposa les restes d'Osiris et les embauma. Elle les transforma en une momie impérissable, capable de supporter éternellement l'âme de ce dieu puissant, et ce fut la première des momies. Pour ce faire, Isis revivifia l'un après l'autre chacun des membres du dieu mutilé. Elle les enveloppa dans une figure faite de cire, d'aromates, de terre mélangée, de blé, d'encens et de pierres précieuses. Elle avait la grandeur du dieu et faite à sa ressemblance. Elle fit sur cette figure des opérations magiques et elle lui dit « Redresse-toi, Osiris. Tu as de nouveau ton dos, ô toi dont le cœur ne bat plus. Tu as des vertèbres, ô toi dont le cœur ne bat plus. Mets-toi sur ton côté, que je mette l'eau sous toi. Je t'apporte le pilier Djeb en or, puisses-tu en être réjoui et raffermi. » Avec l'aide des dieux Anubis le chacal et Thoth l'ibis, elle revêtit le corps d'un linceul de lin bien ajusté, puis d'un autre linceul de lin fixé avec des bandelettes. Ils inscrivirent des figures sacrées et des formules magiques. Enfin, ils tracèrent sur les planches du cercueil et sur les murs de la chambre mortuaire des scènes de l'existence terrestre et de la vie d'autres tombes, en chantant des incantations pour rendre à Osiris l'usage de ses yeux pour voir, de ses oreilles pour entendre, de sa bouche pour manger et parler, de ses mains pour agir et de ses jambes pour marcher. Le corps de son amour resta pourtant inerte. Ses lamentations, ses chants et ses pleurs n'eurent aucun effet. Avec l'aide de sa sœur, elle enfourcha cet étrange cadavre au niveau du phallus et battit des bras en poussant des cris stridents. Elle sembla alors se transformer peu à peu en un divin rapace. Et soudain, une semence divine jaillit du corps momifié et pénétra en elle. C'est ainsi que les deux amants donnèrent naissance au grand Horus à tête de faucon. Grâce au vif courant d'air créé par les battements de ses ailes, Le souffle revint à Osiris le défunt au moment de l'éjaculation. Il respira à nouveau. Les deux amants purent se retrouver et s'aimer comme il se doit. Maintes fois, il remercia sa courageuse et ingénieuse femme et ainsi passa les jours. Il aurait pu reprendre sa place parmi les hommes, mais il préféra régner éternellement sur le royaume des morts. C'est un royaume que le soleil et la lune éclairent en même temps. Quand il fait chaud au milieu du jour, le vent du nord souffle pour rafraîchir l'atmosphère. Des remparts épais protègent ce séjour des tentatives de Seth et des esprits malfaisants. Un palais, semblable à celui de Pharaon, mais mille fois plus beau, s'y élève au milieu de jardins délicieux. Osiris, entouré des siens, y mène une vie tranquille, où abondent les plaisirs de la vie terrestre sans aucune de ses douleurs. Les portes de son paradis sont ouvertes aux âmes de ceux qui sont les suivants d'Horus et qui ont été bons sur la terre. Ils peuvent alors jouir du bonheur éternel auprès du dieu qu'ils ont adoré toute leur vie humaine. C'est ce qu'on dit. L'histoire d'Isis, elle, ne s'arrête pas là, elle qui vient tout juste de devenir mère. Mais cela sera pour une nouvelle balade. En attendant, je vous souhaite une merveilleuse journée. À bientôt.